Sylvie Germain, merci d'être là. Vous êtes arrivée hier. Vous avez accepté de parler hier au Cercle littéraire. On a passé une soirée, on a parlé beaucoup de votre livre. Aujourd'hui, on va parler aussi, ou peut-être un tout petit peu davantage, de celui d'Étienne Barillet que vous avez lu. Donc je compte sur vous pour l'entretien, puisque vous l'avez lu avec... Il dit des choses très profondes sur son livre, donc je me réjouis de vous d'écouter votre conversation. Sylvie Germain, près de 40, c'est juste, hein, 40 romans et essais. Hier, vous m'avez dit que c'était trop, mais j'ai compté, c'est juste, il y en a,
oui,
vous avez 40 titres.
Parce qu'il compte dedans, quand on voit la liste, parfois c'est des préfaces ou c'est des textes très très courts. Ou c'est des textes très courts, mais bon, oui. J'accepte les
40. 40 titres. Ce n'était pas donné d'avance parce que Sylvie Germain se destinée plutôt aux beaux-arts. Et puis elle a fait de la philosophie et pas de la littérature. Élève d'Emmanuel Lévinas, autrice d'un mémoire sur la mystique chrétienne et d'une thèse intitulée « Perspective sur le visage », ça veut dire que le visuel est très important, elle a pourtant écrit 40 publications. Alors ses lecteurs et lectrices savent que son premier livre... dont le déclic est l'image de Jacob dans la lutte avec l'ange, s'intitule « Le livre des nuits », ça a frappé beaucoup de monde à l'époque. Le tout dernier s'intitule « La puissance des ombres ». Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ?
Ben vous voyez, la nuit, je l'ai creusé, et je retourne à l'ombre. Voilà.
Alors on va voir comment tout à l'heure. D'abord, j'aimerais présenter brièvement Étienne Barillet, qui crée une œuvre considérable, à la fois par le volume et par la variété de ses écrits. Il a publié une trentaine de romans, recueils de nouvelles, contes et fantaisies, dont deux viennent de paraître. Je vous recommande Les Presses Inverses, une petite maison d'édition toute fraîchement éclose, qui a publié deux ravissants petits livres très différents de ce qu'Étienne Barillet fait d'habitude. Parmi les romans, s'il ne faut en citer qu'un, ce sera « Dans Khartoum assiégé », qui est paru en 2016 chez Phébus. Si le mot de chef-d'œuvre n'était pas si galvaudé, je l'utiliserais sans hésiter. Et au rayon des essais, on y trouve aussi une trentaine de livres qui vont d'Albert Camus à Einstein, en passant par les médias, l'Allemagne, beaucoup sur la musique, les intellectuels, Martina Hingis. Impossible à répertorier, mais toujours le même esprit de curiosité, d'analyse, de réflexion indépendante et originale qui font que, qu'on soit d'accord ou pas avec Étienne Barillet, on est accroché, stimulé et enrichi. Et aujourd'hui, alors, il a reçu de nombreux prix, mais je vais vous épargner la liste. Aujourd'hui, il publie dans une petite collection aussi fraîchement éclose chez Labor et Fides, qui s'appelle « Lignes intérieures », « Absolument la vie ». Étienne, qu'est-ce que tu as voulu faire avec Absolument la vie ?
Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. J'ai eu besoin d'écrire ce livre. On m'avait proposé d'écrire un livre pour cette collection. J'ai d'abord dit non parce que je n'avais jamais rien écrit qui fût autobiographique à proprement parler. Et après le décès de ma femme, je me suis décidé et j'ai écrit ce livre. Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur les origines de cet ouvrage.
Alors, disons plus sur le contenu.
Demander à un auteur de résumer son livre, vous ne trouvez pas, Sylvie Germain, que c'est la chose la pire. Parce que si on...
Non, parle si de l'intention, pas résumé.
Oui, même l'intention. Vous savez, avant un livre, il y a... Il y a un besoin, il y a une poussée intérieure, mais une intention, c'est presque déjà un mot trop précis. Parce que je ne veux pas vous laisser sans réponse, mais je dirais que je voulais écrire un tombeau pour mon épouse. Voilà.
Sylvie Germain sourit, acquiesce.
Oui, parce que hier, quand on a parlé de votre livre... Avec Jacques, j'ai dit que pour moi, c'était un tombeau pour votre femme. Donc, je ne m'étais pas trompée. Et vous parlez d'autobiographie, c'est une autobiographie spirituelle. Ce n'est pas une autobiographie où vous racontez votre vie. C'est très particulier, une autobiographie spirituelle et qui s'ouvre sur ce tombeau.
Oui, absolument. Je vous remercie, c'est ça.
Alors l'idée de tombeau ne va pas avec forcément absolument la vie, avec la lumière. Lisbeth Kutchumov, dans Le Temps d'aujourd'hui, parle de la lumière. Ça m'a beaucoup frappé, cette manière d'aborder ton livre.
Alors oui, il y a aussi à la fin du livre des portes qui sont ouvertes ou qui restent ouvertes. C'est des portes qui donnent sur un jardin. Donc, ce que j'essaye de dire de mon épouse et de ce qu'elle m'a apporté, cela relève de la lumière, effectivement. Donc il y a bien un paradoxe à écrire Le tombeau de la lumière, mais la lumière subsiste justement. C'est le tombeau de sa personne, d'une certaine manière, puisque nous mourrons tous. Mais ce qu'elle m'a donné, je pense, dure.
Alors, ce qui m'a frappé dans ce livre, à part le côté autobiographique, qui est effectivement totalement inédit, parce que tu n'as jamais écrit sur toi-même directement, et c'est très éclairant, c'est la conjonction de deux cultures religieuses très différentes. Toi, fils de pasteur et d'un pasteur rigoriste, et elle, catholique, et tu as des propos sur le catholicisme et le protestantisme qui vont assez loin, je trouve, voire très profond.
Bon, on peut toujours simplifier et caricaturer, mais je ne sais plus si je le dis dans le livre, mais je peux le dire comme ça au fil de la conversation, que si je devais résumer le catholicisme, j'aurais employé le mot d'amour et le protestantisme, le mot d'exigence, mais dans un sens positif, j'entends bien. Hein, parce que je peux aussi résumer ou raconter les défauts de chacune de ces confessions, mais ça n'est pas intéressant. Disons que j'ai éprouvé au travers de mon épouse et aussi de l'amour qu'elle m'a donné, j'ai éprouvé sa religion comme vraiment la religion de l'amour. Et il est vrai qu'au travers de l'éducation que j'ai reçue, même si je ne prétends pas que mes parents ne m'aimaient pas, bien entendu, mais au travers de l'éducation religieuse que j'ai reçue, c'est l'exigence qui primait. Une exigence qui peut être positive et nous conduire à nous dépasser nous-mêmes, mais qui peut aussi être paralysante et nous conduire à penser qu'on est toujours au-dessous de la tâche.
Est-ce que vous auriez un commentaire là-dessus ?
Deux. Déjà, je voudrais revenir sur cette idée de tombeau, qu'il faut entendre, bien sûr, au sens littéraire ou musical. Et non, ça ne s'oppose pas à la lumière si on prend l'image du tombeau vide, le tombeau vide au matin de la résurrection. Il y a quand même une allusion à ça avec le thème du jardin. Et donc, ça ne veut pas dire fermeture, mais fermeture pour éclosion d'autres choses et réouverture. Et c'est plutôt vers ça que vous tendez. C'est en ce sens que c'est vraiment un tombeau et qui n'exclut pas la lumière. Alors, par ailleurs, vous signalez cette, disons, opposition que vous faites entre protestantisme et catholicisme, et je l'avais relevé, justement. Vous voyez ? Où vous dites que c'est page 86, non, c'est pas ça, c'est pas page 86, c'est 88. Page 86, il y a autre chose. Page 88, le protestantisme, voilà, est du côté du croire. Et que après, c'est difficile parce que quand on s'éloigne de la foi ou de cette religion, de l'adhésion à la religion, on passe au décroire. Comme si c'était plus d'un côté intellectuel, et le catholicisme, que ça serait plus douloureux en un sens, parce qu'on passerait de l'amour, de l'aimer, au désaimer. Globalement, je suis d'accord, étant de tradition catholique, je pense qu'en fait, on peut croiser les deux. Et effectivement, on a beaucoup reproché au catholicisme de demander simplement de croire sans trop réfléchir pendant des siècles, ce qui n'a pas empêché plein de théologiens et de personnes de travailler dessus. Mais je crois qu'il y a les deux. Et quand quelqu'un est dans une croyance et que cette croyance s'effondre, se lézarde, c'est à la fois un décroire comme la démarche de la croyance normalement nécessite aussi, en dehors de la foi pure une démarche quand même, un effort intellectuel de lecture, de compréhension, et ça on le trouve aussi chez les grands théologiens catholiques que protestants. Mais s'il n'y a pas du tout d'amour, c'est qu'il n'y a jamais eu croyance. Donc même un protestant rigoriste, il ne peut pas que décroire, sans en être affecté sur un plan beaucoup plus profond. Je crois qu'on peut. J'entends hein, globalement cette opposition, mais elle ne peut pas être absolue dans les deux cas, ou sinon il n'y a pas la foi.
Oui, bien sûr que la foi protestante n'est pas purement intellectuelle. Ça ne serait pas une foi, ça serait une contradiction dans les termes. Ce que je voulais dire, c'est que l'expérience que j'ai vécue en parlant religion avec ma femme et en m'opposant à elle, c'est que, je crois que je le dis dans le livre, au fond, si je lui demandais de cesser de croire ce qu'elle croyait, ce serait comme si elle me demandait de cesser d'aimer une musique que j'aime. Ça n'a au fond pas de sens. Je ne peux pas désaimer la musique que j'aime, et elle ne peut pas cesser de croire dans le Dieu auquel elle croit. C'est ce côté, pas seulement affectif, ça va beaucoup plus loin que ça, mais ce côté qui engage tout l'être, disons, qui fait qu'on adhère de tout soi-même à ce à quoi on croit. Mais je reconnais, vous avez parfaitement raison, il n'y a pas, l'opposition entre catholiques et protestants n'est pas aussi simpliste que j'aurais pu peut-être laisser entendre dans le livre. J'espère que non, mais parfois on simplifie pour être plus clair, mais on ne l'est peut-être pas.
J'aimerais qu'on parle un peu de votre livre aussi, La puissance des ombres. Vous êtes sensible aux démons, aux forces maléfiques qui nous habitent, et vous avez écrit un livre qui commence comme une gaudriole, par une fête costumée, où chaque personnage est censé représenter une station de métro de Paris. C'est loufoque, et ça nous emmène très loin. Pourquoi avez-vous commencé par cette scène ?
Je vais répondre comme Étienne Barillet. On ne sait pas trop pourquoi... comment on commence, où les choses se mettent en place. C'est vrai que ça commence dans le loufoque, puisque c'est une fête costumée, mais peut-être que quand les gens choisissent un costume pour une fête, c'est pas tout à fait neutre, et peut-être même sans qu'ils s'en rendent compte, ça veut dire quelque chose de leur goût, de leur choix, de leur pensée, ou de leur répulsion, ou de leur fascination, etc. Bon, il va se passer quelque chose de tragique au cours de cette fête, un accident, mais est-ce un accident ? En tout cas, il y a un mort, et puis peu à peu, ça va s'orienter effectivement vers autre chose, et là encore, d'où ce thème des ombres, c'est à prendre en un sens, bien sûr, métaphorique. C'est là, on pourrait appeler ça l'inconscient, les pulsions, dans un autre vocabulaire, les démons qui nous habitent. On est tous habités par des démons, on a tous des fonds très 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 obscurs. Et justement l'intérêt de ce qu'on appelle le religieux, ou de quelqu'un qui est vraiment, qui se situe dans l'espace de la foi, qui espère croire, qui travaille pour croire, ou qui se laisse traverser par la foi, qui essaye de l'accueillir, ne peut pas ne pas se poser de questions sur lui-même. Par exemple, soudain, ça me rappelle des textes, des poèmes du temps baroque. Il y avait un poète tchèque du temps baroque qui s'appelait Biedrich Bridl. Et il a des poèmes, c'est « Moi qui ne suis qu'un immonde ver de terre ». Bon, c'est tous ces excès de la poésie baroque. Et c'est sans arrêt retourner à ce peu que l'on est, à ce côté défaillant, pécheur, etc. pour essayer, c'est toujours pétrir cette obscurité, tout le mal, ou tout ce qu'il y a d'inachevé en nous, et tout ce qu'il y a de peccable, etc. pour essayer, ça fait penser à la phrase célèbre de Baudelaire, tu m'as donné la boue et j'en ai fait de l'or. Et peut-être que ce genre de croyants, ils sont là à pétrir la boue humaine, et pire que de la boue, hein, et pour essayer d'en extraire quelque chose. Et finalement, sur un autre plan, mais approchant, c'est ce que vous faites dans ce petit ouvrage. Parce qu'on sent qu'il y a un trouble, plus qu'un trouble, à l'égard de la religion dans laquelle vous avez été élevé. Effectivement, tellement rigoriste que ça vous en a éloigné. Et en même temps, vous ne quittez pas en claquant la porte, comme font beaucoup. Vous essayez de comprendre, et c'est ça qui est intéressant. Et tout en étant dans cette sortie du religieux, vous rentrez à nouveau dans un autre espace du fait de la foi propre, singulière, qui était celle de votre femme. Même si vous n'y adhérez pas, vous avez assez de respect pour cette foi et assez d'amour pour votre femme pour que quelque chose comme un mouvement de ressac vienne. Et moi, je vous ai vu comme dans un entre-deux, sur un seuil. À la fin du livre, moi, je vous vois sur un seuil, d'où ce tombeau, mais ouvert. Voilà.
Sur un seuil, Étienne.
Oui, peut-être. C'est en tout cas comme ça que je comprends l'agnosticisme dont je parle. Ça n'est pas l'athéisme, ça n'est pas la foi religieuse, mais c'est une attente devant un mystère que je ressens très intensément. Pour revenir à ce que vous disiez du mal, vous citez Baudelaire. Moi, je pensais à un autre vers de Baudelaire, c'est quand il dit tout au début, hein, au lecteur, mon semblable, mon frère, c'est que notre âme n'est pas assez hardie si nous ne commettons pas tous les crimes du monde, c'est uniquement parce que nous sommes lâches, mais nous avons ce pouvoir en nous-mêmes de commettre tous les maux du monde. Ce à quoi j'ai été confronté personnellement, ce que je raconte dans ce livre, est un peu différent. C'est ce que j'appellerais, je ne sais pas si j'ose l'appeler ainsi, mais la souffrance innocente. Même s'il s'agissait d'un être humain qui souffrait devant moi, j'avais vraiment le sentiment que, d'une injustice totale et d'un mal dont aucun humain n'était responsable, hein, c'est simplement une maladie que personne ne soigne aujourd'hui, mais pour moi c'est ça le grand scandale, si vous voulez. La nature est aveugle, elle fait naître et mourir au hasard. Nous avons besoin de donner un sens à ce hasard, et forcément lorsque la personne qui meurt est une personne qu'on aime, eh bien on a le sentiment de l'injustice et j'ajoute, oui, vraiment, de la souffrance innocente.
Alors, à ce propos, la directrice artistique du livre sur lequel m'a demandé de vous demander de lire un passage. Est-ce que tu es d'accord de lire ici?
Je suis d'accord, sauf que sans lunettes, je ne sais pas si je vais y arriver. J'écris ce texte peu de temps après avoir perdu mon épouse des suites d'une longue maladie, comme le dit la morne pudeur des officialités funèbres. Une maladie qui détruisait progressivement sa faculté de penser, qui la dérobait à elle-même, qui lui ôtait la conscience de son destin. Sauf à se persuader qu'une part de son être, à nous inaccessible, a gardé le sens de sa propre vie. Ces tout derniers moments me le laisse espérer. Mais n'est-ce pas une illusion? Peut-être bien, et tant qu'à m'illusionner, je veux croire que cette conscience, malgré la mort imminente, n'était pas conscience de cette mort, ni pour la mort, mais bien conscience de la vie et pour la vie.
Merci. Vous citiez un poète baroque, et dans votre livre, vous citez du slam. À propos, précisément, de cette interrogation de l'homme qui n'est rien. Est-ce que vous avez envie de lire ce texte ou est-ce que vous préférez un autre passage?
Il est un peu long peut-être. Puis vous dites du slam, il n'a pas été conçu pour être du slam.
Mais c'est, vous l'avez slamé hier soir.
Oui. Non, je ne l'ai pas slamé, je ne saurais pas faire. C'est quand même, ça s'apprend, c'est un talent. J'ai rien de grand corps malade. Et simplement, c'était un poème que je n'ai pas écrit. Je tiens à chaque fois à le préciser parce qu'on pense que c'est moi qui ai inventé ce texte. C'est un texte anonyme qui a été écrit dans quelle année, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas daté. Moi, je dirais peut-être les années 70, ou qu'on peut trouver sur Internet. C'est la prière d'un prisonnier. Donc, il n'est pas daté et il n'est pas nommé. Il est anonyme. Et c'est un texte écrit par un prisonnier et qui est assez, pas inégal, c'est pas ce que je veux dire, mais différent entre son début et sa deuxième partie.
Et on cite toujours le début et pas la fin.
Et en général, bah, sur les sites dits chrétiens, quand on trouve prière de prisonnier, on trouve diverses prières, dont celle-là, parce que la première partie peut très bien s'accorder avec une pensée chrétienne de l'ordre presque de la mystique. Mais la théologie négative, où il répète constamment « Seigneur, je ne suis rien, Seigneur, je n'ai rien, je n'ai que ce rien à te donner », et ça a presque parfois des accents de Maître Eckhart.
Et la seconde partie.
Et la seconde partie, ça relève du slam. Et là, c'est un vocabulaire tout à fait contemporain. Il dit « Ouais, je suis qu'un con, je suis qu'un le roi des bouffons », et avec des sortes de... Oh là, j'ai dit un gros mot devant un enfant. C'est dans un texte que je n'ai pas écrit. Hein. Il ne faut pas le répéter. Bref, c'est, donc dans cette seconde partie, c'est davantage effectivement le détenu qui se laisse aller et qui n'en peut plus. Et on ne sent même plus l'espérance. On sent un véritable découragement. Et ça m'a intriguée de voir que sur les sites, on trouve très souvent cette première partie et pas la seconde. Et j'ai découvert la seconde en cherchant comme ça. Et du coup, je l'ai intégrée intégralement, mais pour que ça soit pas trop long comme citation, je l'ai entrecoupé de un peu comme des didascalies au théâtre, où je précise que peu à peu, ce gars qui va lire ce texte, au début il est un peu raide, rigide, parce qu'il est impressionné devant les gens devant qui...
Il faut dire dans quelles circonstances ça se passe.
Parce qu'il va lire ce texte à l'occasion d'une messe d'enterrement de quelqu'un qui faisait ce qu'on appelle les maraudes, c'est-à-dire qui allait une ou deux fois par semaine avec d'autres, des équipes, ce qu'on appelle faire des maraudes. Je pense qu'il y a la même expression. Non ? Ah, on dit comment ?
Je ne sais pas.
Ah bon ? Alors, je vais expliquer. Ça peut être des gens totalement laïcs, ça peut être des gens liés à une aumônerie ou autre, et qui vont dans la rue la nuit, le soir, la nuit, jusqu'à assez tard. Ils vont dans la rue et trouver ben, tous ces hommes, parfois des femmes, qui sont échoués dans les naufragés de la rue pour leur apporter du réconfort, leur apporter de la nourriture, une boisson chaude, parler avec eux. Et donc, cet homme qui est mort et dont on célèbre les obsèques, il y a, comme on fait dans les églises de rite catholique, souvent à la fin il y a des amis ou des proches ou de la famille qui viennent et qui parlent un peu, qui évoquent le défunt. Et là il y a ce gars, à la surprise de tout le monde qui vient, c'est un des gars de la rue, c'est un naufragé de la rue qui a appris que cet homme était mort, mais qu'il l'appréciait, il le considérait comme un copain, et il a rien d'autre à donner que ce poème qu'il connaît. Et alors au début il le lit avec... Évidemment, il n'est pas du tout à l'aise devant ce public. Et puis, peu à peu, il se met à le slammer. Voilà. Mais moi, je ne saurais pas le faire. Je le suggère. Maintenant, le lecteur, il peut slammer tout seul devant le livre.
Je
ne
vais pas vous demander de slammer maintenant. Mais le personnage, donc celui qui fait les maraudes, n'a jamais parlé à ses autres amis de sa foi et de sa manière de la vivre.
Oui.
C'est un personnage très important dans votre livre. Alors, il apparaît peu au début. Et puis, petit à petit, il se densifie et l'apparaît, il porte une partie de ce que vous voulez dire sans nous l'expliquer trop clairement.
Ben, il porte cette part d'ombre, de pénombre, il y est très sensible, d'autant plus sensible que justement il va faire ses maraudes, il voit ce qu'est le mal ou ce que sont aussi les victimes. Alors là, le mal, c'est un mot très, très global, là c'est... Le mal social, la maladie sociale, l'injustice, la violence sociale, la grande violence sociale qui fait qu'il y a des gens qui sont naufragés dans la rue. Et en même temps, ceux qui sont naufragés dans la rue, c'est une telle détresse, c'est une telle misère que ça génère en retour de la violence. Et c'est toujours le problème de la violence, c'est qu'elle se nourrit d'elle-même.
Alors on va y revenir. On va y revenir, mais j'aimerais qu'on revienne un instant, reste un instant sur ce personnage et sur la manière dont il vit sa foi, qui n'est pas une chose.
Oui, parce qu'elle est attenante.
C'est sa pas
foi.
Affirmé d'une manière monolithique.
Bah, lui aussi, il est sur le seuil, mais fatalement, je mets des personnages sur le seuil, parce que moi, je sais très bien que je reste aussi sur le seuil. C'est déjà mieux que rien. C'est difficile de vraiment franchir, et c'est pas nous qui décidons. Si la foi est un don, on peut refuser ce don, mais ça semble impossible en même temps. Si vraiment c'est un don qui vous visite, presque qui vous fracasse, qui rentre par effraction, c'est... Si on ne l'a pas reçu, si on ne l'a pas ressenti, on ne peut pas l'inventer. Ou alors c'est une foi fabriquée, c'est pas vraiment la foi, c'est une croyance. Ça peut être une croyance qu'on décide d'avoir, ou par tradition, ou pour autre raison, mais qui ne va pas être habitée par ce qu'il y a d'essentiel, qui est cette dimension dont vous parlez, que ressentait votre femme, qui est d'amour. Ça, c'est la foi.
Alors vous citez, parmi les poèmes, vous citez Marie-Noël, qu'on a un peu oublié peut-être, mais qui représente une autre manière de vivre sa foi.
Oui, la poétesse Marie-Noël, elle n'est peut-être pas très connue, même en France, très moyennement connue, et à l'étranger encore peut-être moins. C'était une femme du XXe siècle qui n'a jamais quitté sa petite ville d'Auxerre en Bourgogne, qui avait l'air d'une petite souris, toujours photographiée avec son petit chapeau, son imperméable et toujours son parapluie canne, mais qui a écrit une poésie et aussi un journal où il y a des choses vraiment très très fortes sur le plan spirituel. C'était pas du tout une foi rayonnante, heureuse, etc. Elle a été tourmentée toute sa vie par justement le problème du mal. Je crois que j'ai pas une très bonne mémoire, mais je crois que c'est dans ses notes où elle dit à un moment que Dieu nous a donné des mystères à comprendre, mais que le problème du mal reste un mystère qui lui est insoluble. C'est le mystère par excellence. Cette existence, cette prégnance, cette persistance du mal dans le monde, pour des croyants comme cette femme, Marie-Noël, c'est quelque chose d'infiniment douloureux. Elle ne renie pas sa foi, son attachement immense aux évangiles, mais en même temps, elle est là comme une petite fille qui refuse de s'asseoir bien à l'aise dans la salle de classe. Il y a quelque chose qui la révolte. Et d'ailleurs, son véritable nom, c'était Marie Rougier. Et elle a pris ce nom de plume, Marie-Noël, parce qu'une nuit de Noël, son petit frère est mort d'une maladie, comme ça peut arriver soudain. Et c'était une telle souffrance, une telle blessure pour cette femme, c'était donc dans sa propre enfance ou adolescence, elle a pris en souvenir de son petit frère ce nom de Marie-Noël. Donc on peut penser que, ah oui, c'est un joli nom, la nativité, c'est très obscur. Et là encore, on retrouve, vous voyez, la nativité et le tombeau. Donc elle aurait pu aussi s'appeler Pascal, Marie Pascal. Et alors oui, je mentionne un texte qui est très connu d'elle, qui commence par ces mots qui intriguent. « Seigneur, je ne vous aime pas. Si vous voulez que je vous aime, faites en sorte que je puisse vous aimer. » Et bien sûr, elle énumère les raisons pour lesquelles elle n'arrive pas à aimer. Voilà. Et en même temps, c'est une déclaration de foi.
Alors, en lisant votre livre, je savais que nous allions nous retrouver, et ça m'a fait penser évidemment à Étienne, cette phrase-là. Seigneur, je ne vous aime pas.
Oui, oui. Quand on lit votre livre.
Ce n'est pas une phrase que j'aurais prononcée, hein, si c'est ça que tu voulais dire. Mais d'abord un mot. Marie-Noël n'est pas si oubliée que cela dans le petit journal qui s'appelle L'Écho, dans lequel j'écris chaque mois une chronique. Il y a un ou deux numéros, trois pages sur Marie-Noël, précisément. Bon, la question du mal, enfin, j'en parlais déjà tout à l'heure, je me sens très proche, tu le sais, d'Albert Camus et de sa peste dans laquelle le père Panelou, au début de la peste, fait tout un sermon pour dire que c'est en somme une punition du ciel, et devant les morts qui se multiplient et les morts d'enfants, cette justification tombe et c'est le doute qui s'installe. Quoi. Je parle aussi dans le livre d'Ivan Karamazov, évidemment, La souffrance des enfants. Et ce que je me risque à dire, c'est que c'est un mystère. C'est de toute façon un mystère, qu'on soit croyant ou non. Mais évidemment, c'est un mystère redoublé si l'on croit en un Dieu bon et en un Jésus qui est mort pour nos péchés, etc. Je me demande si le mystère brut n'est pas plus douloureux et s'il n'est pas plus juste de se situer devant le mystère brut que armé d'une théologie ou d'une croyance qui nous fait dire il y a Dieu qui est bon, il y a le mal, c'est inconciliable, mais je m'en remets à Dieu. Ça me paraît une démarche compliquée.
Alors, ton père disait l'homme est mauvais, et dans votre livre, Sylvie Germain, il y a un homme qui est...
Il n'y a pas d'accord.
Question d'interprétation. L'interprétation catholique et protestante. L'homme est mauvais, disait le pasteur Barillier, mais c'est trop court, c'est caricatural de dire ainsi, mais enfin c'est une citation. Votre héros, votre personnage qui n'est pas un héros, a des pulsions irrépressible pour des raisons qui ne sont pas divines, ça n'a rien à voir avec la nature, avec la foi ou non, mais vous l'expliquez dans une perspective spirituelle et ça m'a beaucoup intrigué.
Non, mais pour revenir sur dire l'homme est mauvais ou l'homme est bon, c'est assez naïf et ça ne prend pas en considération la complexité de l'être humain. Moi, je ne dirais pas qu'il est bon, qu'il est mauvais.
Mais c'est saint Augustin, hein, le bébé est déjà coupable. Quand même, oui. C'est dans la tradition chrétienne
assez forte. Saint Augustin est sublime et il me pose beaucoup de problèmes. Et quelle misogynie aussi chez saint Augustin. Mais ça, c'est autre chose. C'est tous les pères de l'Église.
Ça, c'est un autre chapitre.
Oui, c'est un autre chapitre, vaste chapitre.
Jansénisme, tout ça.
Et ça n'empêche pas l'admiration pour ses intuitions absolument géniales. Non, moi je dirais plutôt l'être humain, il est à la fois bon, enfin il y a du bon et du mauvais, il est surtout éminemment fragile, il est éminemment complexe, et il est dépassé par lui-même, il est dépassé et en hauteur, si on peut dire, avec ce tourment qu'il a d'une transcendance ou pas, d'un dieu ou pas, du divin, alors selon les cultures, selon les époques, on va donner tel ou tel nom, telle image du divin. Et puis, par le fond, dans ses profondeurs, eh bien, c'est tout ce côté, ce magma plein aussi d'effroi, de violence qui porte en lui. Il y a ces deux aspects. Et on ne peut pas vraiment trancher comme ça, je crois. Ce n'est pas possible.
J'allais enchaîner, mais...
Oui, si je puis me permettre de vous faire un compliment, j'ai lu de vous Toby Desmarais, et ce qui m'a frappé au fond, c'est l'intensité, l'omniprésence, dans un sens du mal et de la souffrance, de l'horreur même, mais c'est comme si vous alliez au fond du mal pour authentifier le bien. Et au moment où vous parlez du bien, on y croit, si j'ose dire, parce qu'on sait que le mal, vous en avez pris la mesure. Et c'est ça qui m'a le plus touché dans ce livre. Et je pense que c'est commun, j'imagine que c'est commun à tous vos livres, que votre univers est là. Vous avez une conscience très vive du mal et de la souffrance, et que c'est au fond même de cette conscience que vous allez chercher et que vous trouvez le bien.
Oui, ben, ça me fait penser du coup à Bernanos, et parce que ce thème de l'espérance, parce que récemment, on m'a demandé dans le cadre d'un documentaire d'intervenir sur le thème, pas évident, l'espérance chez Georges Bernanos. Tous ceux qui ont lu les livres de Bernanos se rendent compte que c'est pas facile de trouver la lumière de l'espérance dans son œuvre, et pourtant il était vraiment profondément, très profondément croyant, tout en étant, je pense, assez désespéré. Mais comme il disait, l'optimisme, l'espérance n'a rien à voir avec l'optimisme. L'optimisme, il appelait ça l'imbécilité heureuse. Elle se contente de voir que ce qui l'arrange et elle ne veut pas se contrarier avec tout ce qui est de l'ordre du mal, de la souffrance. Et le pessimisme, ben, il appelait ça l'imbécilité malheureuse. Il dit, ceux-là, ils constatent qu'il y a du mal, mais ils s'arrêtent à ce constat. Ils ne veulent pas aller plus loin. Donc il y a une sorte aussi de paresse, plus encore qu'intellectuelle, une paresse spirituelle, du moins pour quelqu'un comme Bernanos. Et pour lui, l'espérance est vraiment à creuser. Elle va se trouver aux confins de l'obscurité, du mal, des ombres, de la pénombre, on peut prendre tous les mots qu'on veut. Et quand j'ai relu certains de ces textes, je me suis dit, mais ça me rappelle certains passages des épîtres de Paul, où quand il parle de l'espérance, c'est toujours en ayant cité avant, nous sommes persécutés, mais pas désespérés, nous sommes ceci, mais nous gardons l'espérance. Donc ce sont des personnes, ceux qui sont en droit de parler d'espérance comme ça, ce sont en général des personnes qui vont vraiment jusqu'au bout, au fond du mal. Et ça me revient maintenant à peu près, un peu plus de manière exacte, la citation de Marie-Noël. Elle disait, Seigneur, tu nous as donné beaucoup de mystères auxquels croire, mais il y en a un qui est un mystère à penser, c'est celui du mal. On ne peut pas adhérer comme ça, dire c'est un mystère. Non, c'est un mystère à penser. Or, penser du mystère, ça veut dire qu'on va penser jusqu'à la fin de ses forces, jusqu'à l'instant de sa mort.
Alors, Étienne parlait de Toby Desmarais en disant que vous êtes allé au fond du mal. L'espérance, selon Sylvie Germain, pas Bernanos, mais selon vous?
Je me cacherai derrière Bernanos.
Alors, dans votre livre, il y a une espérance.
Oui, qui est très
modeste.
Mais
elle est très particulière.
Disons, elle est tout simplement extrêmement modeste. Je n'allais pas inventer une rédemption soudaine à un personnage de faible personnalité, mais qui s'est laissé déborder, littéralement déborder, comme manipulé par ses propres démons, jusqu'à devenir un assassin. Et il est incapable d'assumer son acte, parce que c'est pas un monstre, c'est pas un pervers, c'est un pauvre gars qui s'est soudain senti littéralement envahi par ces sortes de démons, de souffrances qui portaient en lui. Et c'est comme s'il se rendait justice lui-même. Il ne se rend pas justice en s'éliminant lui-même. Il ne peut plus, vivre.
Il ne faut pas en dire trop, mais il y a une espérance qui est tournée vers le lecteur, parce que vous nous amenez à le voir autrement et à le... Il y a autour de lui quelques personnes qui le voient comme un être plus complexe et plus intéressant que ce qui apparaît au premier regard. Et l'espérance, c'est de nous amener à la compréhension, peut-être à la tolérance, je ne sais pas, en tout cas à la bienveillance, et pas au jugement abrupt qui serait apparemment justifié vu les circonstances.
Il y a nécessité, après des crimes, d'une justice humaine. La société se doit, pour se défendre, sinon ça sera l'anarchie totale, qu'il y ait une justice, c'est normal. Il sait qu'il n'y échapperait pas à cette justice-là, mais il serait incapable de la supporter vu l'état de délabrement
psychique. Mais vous amenez le lecteur ailleurs.
Oui, alors, non, parce que je tiens à dire que cette justice sociale est indispensable. On ne doit pas l'éliminer, mais elle n'est pas suffisante. Et on peut rendre un jugement au nom d'une société pour essayer de rétablir à nouveau l'équilibre et la paix sociale, mais ça ne règle pas le problème intérieur, intime du coupable. Et c'est là où, on n'a pas apporté un jugement définitif, abrupt, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. On ne se connaît même pas vraiment soi-même dans ces possibilités, justement, peut-être d'éclats de violence, d'injustice, de cruauté. On ne sait pas. Tant qu'on n'est pas confronté à l'extrême, on ne sait pas ce qu'on vaut. Et c'est plutôt vers ça que je conduis à l'extrême fin. Et il y a le peu de personnes qui vont être là au moment où ça va s'achever. Il y a la présence quand même au moins de 2-3 personnes qui ont eu de la tendresse pour lui, lui qui en a si peu reçu, et qui ne portent pas de jugement, qui ne cherchent même pas à savoir pourquoi, comment il en est arrivé là, qui sentent qu'ils ne peuvent pas le sauver, ils ne peuvent pas l'arrêter dans son acte ultime de suicide. Mais ils sont là. Ils sont là sans jugement et ils l'accompagnent de manière très... très discrète, presque enfantine, en lui chantant une chanson.
Alors, le perso... Oui.
Quelle chanson ?
J'avais envie de dire que vous êtes romancière, et le romancier comprend, au fond, tous ces personnages, d'une certaine façon, pardonne tous ces personnages. Tout comprendre, c'est tout pardonner, disait Madame de Staël, je crois. Le romancier, en tant que tel, je dirais presque, il a ce rôle-là. Enfin, c'est pas un rôle, mais ces personnages ne sont pas condamnés par leur auteur, jamais au fond, même les pires. Et bon, vous
par les bons auteurs.
Alors cette fois, je ne sais pas si c'est qu'ils sont d'accord, qu'il est d'accord ou pas d'accord.
Ni le chien ni le ciel.
ni l'orage. Mais bref, oui, je disais l'auteur comprend et pardonne finalement tous ces personnages. Simplement, vous le thématisez, si je comprends bien, dans ce roman-là.
Je dirais surtout qu'elle amène le lecteur à partager ce regard, ce qui n'est pas toujours le cas dans les romans.
Non, je ne le thématise pas, parce que ça ne serait plus du roman. À la limite, il y a des thèmes que j'ai repris dans des livres qui sont plus du côté de l'essai, ou du moins qui sont de la non-fiction, mais dans de la fiction, il ne faut pas thématiser, enfin surtout pas théoriser.
Je retire le mot.
Voilà, non, ou du moins il ne faut pas théoriser. Alors, essayer de comprendre est une chose, ça empêche les condamnations hâtives. Tout pardonner, on sait très bien qu'on ne peut pas pardonner certains crimes à la place des victimes. Ça, c'est pas possible. Donc, le tout pardonner, ça redemanderait à être discuté. On peut essayer de comprendre. Et là aussi, comme d'habitude, il y a un seuil auquel on arrive. Et on peut le franchir d'un pas martial en disant « je condamne à jamais », etc. Mais on peut se dire « là, ça ne dépend plus de moi. Ce jugement-là, s'il y a un Dieu, c'est à ce Dieu... » De porter le jugement. Moi, je ne m'autorise pas. Je sais qu'il y a quand même des grandes figures, d'immenses prédateurs dans l'histoire, des figures de bourreaux. Il est difficile de dire on pardonne. C'est pas possible.
Oui. Au fond, dans les temps anciens, l'Église jugeait puis remettait le coupable au bras séculier. Là, vous nous dites l'inverse, d'une certaine manière. Le bras séculier condamne, mais il y a un autre jugement d'un autre ordre qui serait spirituel.
Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Et quand j'ai écrit ce livre, m'est venue peu à peu, m'est revenue une phrase des évangiles qui m'a toujours intriguée, que je trouve magnifique. On peut l'interpréter de diverses manières. Quand il est dit, c'est le Christ qui dit, dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Et on peut se dire, est-ce qu'il y a aussi donc des demeures pour ce qu'on appelle les faillis, les naufragés spirituels, les pires ou les...
Est-ce que l'enfer existe ? C'est quand même un débat aussi qui remonte au début du christianisme. Origène s'est fait condamner pour avoir nié l'enfer, en somme. Mais c'est une question qui a été largement débattue au long des siècles, n'est-ce pas, dans le christianisme. On ne le nie pas complètement, mais je dirais que... Oui, d'ailleurs, il est décidément tout proche, on ne peut pas le nier, mais enfin, on le spiritualise, je dirais. L'enfer, c'est le désespoir, disait Kierkegaard.
Oui, ou un Maurice Zindel, je ne sais pas si certains connaissent, il était de Lausanne, c'est quand même un très très grand penseur spirituel, un grand mystique, et Maurice Zindel disait simplement « l'enfer c'est de ne pas aimer ». Voilà, on revient toujours à ces mêmes...
Alors je vais vous demander quand même de lire un bref passage, si vous êtes d'accord, parce que l'heure tourne, et puis on va vous donner la parole au public, depuis tout le pathos, ici, jusqu'à la fin du paragraphe.
Tout le pathos de la cérémonie, de cette heure en suspens au seuil de l'éternité et ou du néant, toute l'absurdité de cette mort engluée d'ignorance, de mensonge, toute l'insanité et l'ignominie de ces deux crimes ont alors implosé dans son cœur, sa conscience. Il était un tel rien, un moins que rien même, affolé de honte, de culpabilité, mais sans personne, ni humaine, ni divine, sur qui s'en décharger ou au moins prendre appui. Un pauvre rien, sans courage et dénué d'espérance. Et il avait envie de hurler, mais le rien, c'est moi, c'est moi. Et il a dû contenir ce cri, le manger en le concassant comme un caillou dans un grincement de dents, le déglutir à s'en étrangler. Il n'a plus écouté la suite, il est resté tassé sur lui-même, les poings serrés, la gorge nouée, sous le regard absent et louchon de Sainte-Anne et celui captif d'un livre de la petite Marie. Mais à la fin de l'office, quand les assistants funéraires ont rechargé le cercueil sur leurs épaules et entamé leur marche solennelle vers la sortie sous les applaudissements, il a bondi de son siège et s'est sauvé, renversant la chaise et bousculant quelques personnes au passage. Qui se trouvait dans ce coffre de chêne clair ? Cyril, Gaspard, ou bien sa mère et sa petite sœur Rosine, ou l'assassin de sa sœur qu'il avait tué par procuration ? Ou plutôt par substitution et par confusion mêlée, ou peut-être lui-même. Oui, c'était cela, c'était lui, c'était le rien de lui dissous dans le rien du tueur d'enfants, un double rien enfermé dans un losange en bois blond, un rien si lourd qu'il fallait 4 hommes robustes pour le soulever, le porter. Où ça l'emporter ? Dans un trou, pas au ciel. Lui, extradé de lui-même et livré au pouvoir d'un meurtrier, qui lui avait infusé sa folie. Lui sans lui, lui hors de lui, exclu de la communauté des vivants, un rien repoussé au désert. Il a pris les devants, il s'est enfui avant que le cercueil ne le happe.
Merci. Est-ce que vous désirez intervenir, mesdames et messieurs ? Je crois qu'il y a un micro-baladeur. Voilà, madame. Derrière vous.
Merci. Bonjour, merci, c'est très intéressant. Une remarque personnelle, j'ai l'habitude de dire qu'on se lève tous les matins en faisant le choix du bien ou du mal, et chacun sur son petit bout de chemin, et chacun comme il peut avec ce qu'il est, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis une question, parce que c'est vrai, enfin, une vraie interrogation, j'ai l'impression que le mal il dure 10 secondes et que... le bien va durer une éternité et que pour réparer le mal, parfois, il faut tellement de temps. Pourquoi j'ai cette sensation qu'il faut tellement de temps à réparer du mal ? C'est rajouter du mystère au mystère, peut-être, mais c'est... Voilà. Peut-être avez-vous des pistes de réflexion là-dessus ?
Dites-moi... Je ne suis pas théologien. Et non, c'est simplement l'imperfection du monde. Tout est imparfait tout le temps, à tout instant. Et ou, en termes plus techniques, on pourrait parler d'entropie, n'est-ce pas ? La tendance du monde est au désordre. Et créer de l'ordre, c'est-à-dire quelque chose qui soit, qui se tienne et qui soit vivant et qui soit bon de surcroît, c'est un travail permanent. L'univers, oui, c'est une lutte permanente d'aller contre cet univers qui a tendance à se défaire.
Mais si on place à la même hauteur l'ombre et la lumière, pourquoi cette discordance, cette incohérence de temps ? C'est ça ma question.
Je ne sais pas s'il y a autant d'incohérences de temps. Le mal, quand il se commet, ça peut se faire aussi bien d'un coup, un bombardement, un assassinat, mais il peut aussi se diffuser très lentement comme un poison. Ce qui peut se faire au sein d'une famille, ce qui peut se faire dans une société, ce qui peut se faire de différentes manières. Donc, le mal, il peut agir d'un coup, tout fracasser, mais aussi empoisonner lentement. Le bien, c'est pareil. Il peut, par un geste, parfois un mot, un regard peuvent sauver quelqu'un comme ils peuvent le détruire, mais il y a les regards qui sauvent ou les gestes qui sauvent, et où il y a aussi le bien qui est fait très, très lentement, l'air de rien. Ça me fait penser dans des textes aussi bien de Tolstoï que de Dostoïevski, et ce sont souvent des femmes, des moujiks, des femmes ordinaires, des paysannes qui ont des vies vraiment épouvantables, de misère, et en plus, en général, un mari, des fils qui sont ivrognes, qui les frappent, et elles restent vraiment des saintes femmes, des saintes, et on se rend compte souvent de la bonté ou de la sainteté de certaines personnes une fois qu'elles ont disparu. Il y a des gens, ils peuvent passer une vie comme ça de bonté, de bienveillance. On ne s'en rend pas compte, on est tellement habitué. Et la personne ne se faisant pas remarquer, comme on dit, le bien fait du bruit, le mal fait du bruit, et le bien, au contraire, est très discret, il est très silencieux, il travaille dans l'humilité. Et il faut souvent que la personne s'efface pour qu'on se rende compte de tout ce qu'elle a apporté. Et il y a comme, vous voyez, un mouvement de ressac qui revient et qui peut être très, très bénéfique. Par exemple, un geste qui fait du bien. Tout le monde connaît dans Les Misérables de Victor Hugo le fameux passage avec Jean Valjean quand Monseigneur Myriel va avoir ce geste étonnant devant les policiers qui ont trouvé dans le sac de Jean Valjean les chandeliers en argent qu'il a volé chez l'autre. Et il dit, mais non, je vous l'ai donné, il n'y a pas de problème, je voulais vous donner d'autres choses, je voulais vous donner mon argenterie. À partir de là, quelque chose bascule. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans le mal, tout simplement parce qu'ils n'ont connu que ça. Ils sont depuis toujours victimes du mensonge, du viol, de la violence, enfin de toutes ces choses qui détruisent l'être humain. Et soudain, il y a quelque chose, une porte là encore, c'est dans la... Une porte s'ouvre, une lumière s'ouvre, et il s'y engage. Voilà. Et pour l'autre chose, et après j'arrête, il y a un mot que j'ai découvert, bon, il y a quand même quelques années, qui est très très beau. C'est le mot aorasi. L'aorasi. Je ne sais pas si les gens connaissent ce mot-là. Ça veut dire, bien sûr, c'est un mot qui vient du grec. C'était justement chez les Grecs, le passage d'un homme, de quelqu'un, un homme ou peut-être une femme, qui peut être un mendiant, qui peut être un voyageur, qui demande l'hospitalité ou un verre d'eau. D'où la nécessité toujours de recevoir l'étranger très convenablement, parce qu'on ne sait pas si ce n'est pas un dieu qui est en train de passer pour vous mettre en fait à l'épreuve. Et on se rendait compte au moment où il s'éloignait qu'un dieu était passé. C'est ce qu'on appelle l'aorasi, et il y a une image absolument splendide dans les évangiles, c'est à l'auberge d'Emmaüs. Il faut que le Christ s'efface, disparaisse, et soudain leurs yeux s'ouvrent, au moment de la disparition. Alors les représentations par Rembrandt sont sublimes, où on voit cet instant où il va quitter le visible, et les autres qui sont comme ça, ils sentent qu'il se passe quelque chose, et ils comprennent une fois que le Christ a disparu. Ça aussi, c'est un mouvement d'aorasi. Et en fait, peut-être que c'est le bien agit comme ça. Mais le mal, il faudrait peut-être lui trouver un autre mot aussi. Le mal, il jette des semences terribles. Hein. C'est celle de l'ivraie, des ronces. Il jette beaucoup de semences et qui durent très, très, très longtemps. Donc, dans les deux cas, on ne peut pas opposer, dire l'un est rapide, l'autre ne l'est pas. Non, dans les deux cas. Et c'est pas tant à la même hauteur, parce que c'est même justement une dissymétrie absolue entre les deux, c'est plutôt une sorte de lutte, voilà, de, je ne sais pas comment dire.
Je peux pas mettre
une dernière question.
Une dernière question, pardon. Madame Germain, je sais que vous avez écrit des essais. Est-ce que vous avez écrit un essai sur ces moments de lumière dans la littérature? Ça serait passionnant à lire. Entre autres, comme vous citiez là, Jean Valjean et les candélabres dans son sac. Enfin, Ce genre de choses.
Ça serait un gros travail. Je pense pas avoir la compétence pour ça. Citer comme ça, quand ça revient, c'est une chose. Travailler dessus, c'en est une autre. Et j'avais écrit un petit livre, mais en fait, c'est où j'évoque trois peintres différents qui s'appelaient Atelier de lumière. Mais c'était sur des peintres. C'est différent. Mais là, le thème est magnifique parce qu'il y a énormément de littérature sur la littérature et le mal, des colloques, etc. Mais la littérature et le bien.
Vous avez du boulot.
Il y a beaucoup de travail.
Vous avez du boulot.
Moi, je ne sais pas.
Est-ce que quelqu'un d'autre désire intervenir? Si ce n'est pas le cas, je vous recommande absolument la vie d'Étienne Barillet, La puissance des ombres de Sylvie Germain, et dans ces deux livres, on trouve de la lumière. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Vous allez dédicacer. On va vous retrouver sous la tente.